Radio Kapi.
Le journal. Billy Ivan Lutumba à la présentation.
Des efforts pour la fin de la guerre dans la partie est de la RDC, les perspectives économiques entre la RDC et les USA, un accord sur les minéraux, ces points ont été au centre des échanges entre Félix Tshisekedi et le conseiller principal du président américain pour l'Afrique ce jeudi à la Cité de l'Union africaine. Vous en saurez davantage tout de suite en ouverture de cette édition. Conflit dans l'Est, il est fait état d'une tension ce jeudi dans le chef-lieu du territoire de Massissi au Nord Kivu. Des affrontements mettent aux prises les rebelles du M23 aux combattants Wazalendo. La population vide à la panique, nous en parlons dans ce journal. Il fait partie des jeunes leaders de la province de l'Ituri. Moïse Aliéguera, invité de ce journal, fait le point sur la crise humanitaire actuelle dans cette partie de la RDC. Sous peu, nous vous déroulons les autres aspects et contours de l'actualité congolaise. Merci de votre attachement à votre chaîne d'information par excellence. Mesdames et messieurs, bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Amis à l'écoute, bonsoir. Les États-Unis d'Amérique réaffirment leur engagement de mettre fin au conflit en RDC. C'est ce qu'annonce le conseiller principal du président américain pour l'Afrique au sortir de ses échanges avec Félix Tshisekedi ce jeudi à la Cité de l'Union africaine. Massad Boulos était accompagné de Madame Corina Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de Dan Dunham, directeur du Conseil national des sécurités pour l'Afrique. Selon une dépêche de la présidence, les discussions ont également porté sur les perspectives économiques entre les deux pays qui entretiennent une coopération stratégique, d'où Kinshasa a proposé à Washington un accord sur les minéraux. Garsam Mzati pour d'autres détails.
Massad Boulos, conseiller principal de Donald Trump, affirme que les États-Unis restent déterminés à contribuer à la fin du conflit dans l'est de la RDC. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC, tout en posant les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa, indique Massad Boulos. Quant à l'accord sur les minéraux et investissements américains proposé par la RDC, le conseiller principal de Trump déclare, je le cite, « Nous avons pris connaissance de cette proposition et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Nous visons à stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans les secteurs miniers, pour contribuer à la prospérité de nos deux pays. » Fin de citation. Il souligne que les entreprises américaines sont prêtes à s'installer en RDC pour stimuler les économies locales. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars, de création d'emplois, de transferts de connaissances et d'investissements dans l'infrastructure. Il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité, renchérit-il. Massad Boulos et son équipe vont également se rendre au Rwanda, au Kenya et en Ouganda pour rencontrer des chefs d'État et des dirigeants d'entreprises.
Pour sa part, le gouvernement congolais entame l'évaluation des dossiers du contentieux international de la RDC. C'est dans ce cadre que le vice-ministre de la Justice et contentieux international a séjourné du 30 mars au 2 avril à Paris, en France, pour la première étape de cette évaluation. À l'Hexagone, Samuel Bemba a pris langue avec les membres du secrétariat général de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale CCI. Plus de détails avec Blaise Nongala Mayanda.
Après échange avec les avocats de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre des commerces internationales, le vice-ministre de la Justice a salué l'évolution positive des dossiers de la République démocratique du Congo. Samuel Bemba a également affirmé avoir reçu des informations sur l'essentiel de la procédure, du règlement, mais également sur les dossiers de la RDC gérés dans cette juridiction internationale.
Nous avons été reçus par le secrétariat. Il nous a entretenus sur l'essentiel de la procédure, du règlement, mais aussi des dossiers qui concernent la République démocratique du Congo.
Dès là, il dit en outre avoir obtenu des assurances de l'organisation en juin 2024 d'une formation en arbitrage à Kinshasa. Cette session va permettre à la RDC d'avoir un représentant au sein de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre des commerces internationales après le décès de Maître Emery Mukendi. À cette occasion, le vice-ministre de la Justice a remercié le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et la première ministre Judith Suminwa pour leur implication dans ce secteur. Depuis janvier dernier, Samuel Bemba a mené plusieurs actions dans le cadre du contentieux international dans les négociations ayant abouti à la réduction des horaires du cabinet Hogan Lovells en faveur de la RDC.
Nous abordons à présent la partie sécuritaire dans le nord-est du pays. Au nord Kivu, la situation demeure tendue et volatile ce jeudi dans le chef-lieu du territoire de Masisi. C'est après les violents affrontements qui ont opposé dans la matinée les rebelles du M23 aux combattants Wazalendo dans les villages environnants. Des détonations d'armes lourdes et légères ont paniqué la population civile, disent nos sources. Blaise Shindani.
Ces combats ont éclaté tôt le matin autour de 5 heures locales dans les alentours du village Kani, près du centre de Masisi, indiquent les sources locales. Certaines sources indiquent que ce sont les combattants Wazalendo qui auraient lancé une offensive contre les rebelles M23 pour tenter de déloger ces derniers du chef-lieu du territoire de Masisi qu'ils occupent depuis plusieurs mois. D'autres sources parlent d'une contre-offensive des rebelles M23 contre les Wazalendo venus de l'axe Niabiondo et qui menacent par des attaques successives leur position de Masisi centre depuis lundi. Surpris par ces attaques matinales, les habitants de Masisi, en particulier des quartiers Imara et Birere autour de l'hôpital de référence, sont restés terrés dans leur maison. Aucun bilan de ces combats n'est disponible pour l'instant. Selon nos sources, l'intensité des combats a baissé depuis 9 heures locales. Toutefois, la situation demeure toujours volatile, disent nos sources.
En rapport toujours avec la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, un calme est observé ce jeudi dans la commune rurale de Walikale, chef-lieu du territoire éponyme. Selon plusieurs sources locales, les militaires FARDC accompagnés des combattants Wazalendo ont repris le contrôle de la cité dans la soirée hier mercredi. C'est après le retrait observé des rebelles du M23 qui occupaient la cité depuis le 20 mars dernier. Entre dimanche et hier mercredi, des échanges de tirs ont opposé à plusieurs reprises les Wazalendo aux rebelles M23 qui quittaient la zone. C'est notamment sur les axes cité belge et village Ngora et Mutakato en direction de Goma, exacerbant la panique dans la cité. Une opération de ratissage menée dans le centre de Walikale par l'armée congolaise et ses alliés locaux, Seretanko, précise nos sources. À l'Ituri cette fois-ci, des combats ont opposé mercredi des miliciens du groupe armé Chiniatuna aux rebelles des ADF à Mont Oyo, une forêt située dans le sud du territoire d'Irumu. Des sources locales renseignent que la milice Chiniatuna a délogé ces rebelles de leur bastion. La société civile de ce territoire demande aux forces coalisées, FARDC et armées ougandaises, de relancer les opérations militaires contre ces ADF en vue de protéger des vies humaines. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Mardi, des pygmées se rendent dans la forêt pour vaquer à leurs occupations. Sur place, ils constatent un mouvement suspect d'hommes armés. Le soir, ils alertent les responsables du groupe armé Chiniatuna. Mercredi, des éléments de cette milice se lancent à la poursuite de l'ennemi, affirment nos sources. C'est à la hauteur de Mont Oyo que les belligérants ouvrent le feu. D'après nos sources, ces affrontements durent près de 4 heures, soit de 12 heures à 16 heures locales. Pascal Kisezo, le président de la société civile du territoire d'Irumu, alerte les autorités militaires sur la présence des ADF dans cette région après plus d'un mois d'accalmie.
Et aujourd'hui, tel qu'il y a déjà un cas suspect où des hommes armés sont déjà dans cette partie de la chefferie de Walesifukut, ça nous inquiète déjà. C'est pourquoi nous demandons aux forces armées et la coalition UPDF et FARDC de vite organiser des patrouilles de combat dans cette partie de la chefferie de Walesifukut afin de neutraliser ses ennemis pour qu'ils n'arrivent pas encore de faire des exécutions dans la chefferie de Walesifukut ou Walendubindi, Banyari Tchabi afin que la population soit protégée.
Toutes nos tentatives pour avoir la réaction des autorités militaires n'ont pas abouti. Bounia, Jean-Claude Lequi, dit les Radio Capi.
Retour dans le Nord Kivu. Le réseau pour les droits de l'homme Redo, une organisation de défense des droits humains basée à Butembo, se dit inquiète de la recrudescence de l'insécurité dans cette ville et ses environs. Selon son coordonnateur, 38 cas de meurtres, d'assassinats et de justice populaire ont été documentés par le Redo dans la ville depuis janvier de cette année. Le Redo demande aux autorités de renforcer la sécurité des population. Mouindo Wassivignoua est au téléphone de Martial Papimoukeba.
Pour le premier trimestre de l'année 2025, le Redo a documenté 38 cas de meurtres et assassinats à ville de Butembo et à Viro, dont 31 personnes de sexe masculin et 7 de sexe féminin. 14 cas au mois de janvier, 9 cas au mois de février et 15 cas au mois de mars. D'ailleurs, c'est à ce mois où on a eu plus de cas. De ces 38 cas, 11 sont des cas de justice populaire, à terme de pourcentage 29%. C'est dans la commune qui même, mais aussi aux environs de la ville de Butembo où on a eu plus de cas de meurtres et assassinats. À titre de recommandation, les RDO appellent aux responsables des services de sécurité de fournir plus d'efforts pour prévenir d'autres cas similaires. Aux instances judiciaires de la place, de diligenter des enquêtes sérieuses afin de dénicher les auteurs et les juger conformément à la loi. Aux jeunes d'éviter la justice populaire.
Nous allons nous rendre cette fois-ci dans la partie sud-est de la République démocratique du Congo, dans le Haut-Katanga, à Lubumbashi. Certains déplacés en provenance de Goma, dans le Nord Kivu, qui ont fui le combat entre les M23 soutenus par le Rwanda et les FARDC, sont déjà arrivés dans la ville qui préfère Lubumbashi. S'il y en a qui sont dans les familles d'accueil, d'autres sont logés au foyer social de la commune de Kamalondo. Ces derniers ont reçu l'assistance du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Un geste applaudi par les bénéficiaires qui disent avoir tout abandonné à Goma. Explication de Jean Gandou.
Ce sont 10 familles composées de 44 personnes, dont 12 enfants, qui sont arrivées à Lubumbashi depuis plusieurs semaines. Ils sont installés au centre du foyer social de la commune de Kamalondo avec l'aide de la division provinciale des affaires sociales. Dépouillés de tout, ils vivent dans des conditions précaires, exposés à des intempéries, à toutes sortes de maladies, de mains sales, dont le choléra. Il y a quelques jours que le ministre provincial de la Santé et Affaires sociales leur a rendu visite. À cette occasion, Joseph Sambibulanda s'est imprégné de leurs conditions de vie. Et ce mardi, ses déplacés ont reçu une assistance constituée des vivres et non-vivres, dont les sacs de farine, de maïs, de riz, de haricots, de l'huile, de braise, de seaux et autres ustensiles de cuisine. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga a aussi mis à leur disposition des ballots d'habits et de chaussures. Ils ont ainsi commencé une activité génératrice des revenus pour leur auto-prise en charge. Chacune des familles a aussi reçu une enveloppe pour se chercher une maison à louer afin de libérer ce centre des formations sociales et laisser ainsi les élèves qui les fréquentent étudier dans de bonnes conditions.
Actualité dans la province du Tanganyika à présent. Recrudescence du banditisme urbain à Kalemi. Le ministre provincial de l'Intérieur de cette province appelle la population à dénoncer tout cas suspect. Il a lancé cet appel mercredi à Kalemi au cours d'une rencontre avec la presse. Selon le ministre provincial de l'Intérieur, la majorité des malfaiteurs identifiés seraient des évadés de la prison centrale de Kalemi en février dernier. Il souligne que certains d'entre eux sont déjà aux arrêts. Le point avec Paulin Monanga.
Johnson Kasongo, ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika, annonce qu'une quinzaine des évadés de la prison centrale de Kalemi sont déjà arrêtés. Il précise que 379 détenus se sont évadés en février dernier. La prison centrale de Kalemi comptait plus de 800 détenus. Dans le cadre de la lutte contre la recrudescence du banditisme urbain à Kalemi, le ministre a réuni les chefs de quartier pour leur signifier que la plupart de ces évadés se cachent dans la population et que chacun d'entre eux devrait jouer son rôle en dénonçant tout cas suspect. Dans les soucis de la mobilisation générale, le ministre provincial appelle aussi les professionnels des médias à sensibiliser la population pour lutter contre la criminalité dans la ville. Signalons que depuis plusieurs semaines, la ville de Kalemi fait face à une criminalité croissante. Plusieurs cas de cambriolage avec armes à feu et armes blanches sont signalés dans beaucoup de quartiers de la ville. Le gouvernement du Tanganyika met à la disposition de la population un numéro vert pour contacter les services de sécurité en cas d'urgence.
Nouvelle en plus bref et puis nous passons à la page internationale. L'instabilité du taux d'échange à Bukavu et dans la province du Sud Kivu en général affecte considérablement le panier de la ménagère. Cette fluctuation aggrave la situation économique déjà précaire à cause de la rareté monétaire due à la fermeture des banques et des institutions des microfinances dans la ville de Bukavu. Les devises deviennent rares dans le circuit pendant que le taux du dollar oscille entre 2800 et 3300 francs congolais.
Actualité internationale.
Les affrontements au Soudan se poursuivent alors que l'armée prend le contrôle du centre du pays. Depuis le début de l'année, les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR subissent des lourdes pertes. Les états de Sennar, d'Al-Jazira, du Nil Blanc ainsi que la capitale Khartoum sont désormais sous le contrôle de l'armée qui attribue ses succès à l'intensification de ses opérations. Le 2 avril, des combats ont éclaté autour de la ville d'El Obeid dans le Kordofan du Nord où l'armée et les FSR se sont affrontés pour le contrôle de cette région stratégique. Et puis, l'Assemblée nationale du Sénégal a adopté le 2 avril 2025 une révision de la loi d'amnistie votée sous l'ancien président Macky Sall, excluant les crimes de torture, d'assassinat et de meurtre des violences politiques survenues entre 2021 et 2024. Cette révision vise à clarifier les infractions couvertes par la loi d'amnistie et à permettre l'ouverture d'enquêtes sur les crimes graves commis pendant les manifestations de l'opposition. Environ 65 personnes ont perdu la vie durant ces manifestations, souvent réprimées violemment par les forces de l'ordre. Désormais, les familles des victimes pourront déposer des plaintes devant la justice.
L'invité.
Je vous l'ai dit dans le sommaire, notre invité est Moïse Aliéguéra. Il est un des jeunes leaders de la province de l'Ituri. Avec Ronelly Timbonera, il revient sur la crise humanitaire actuelle dans cette partie de la RDC, ainsi que sur ses attentes concernant le renforcement de la présence des troupes ougandaises dans plusieurs entités de la province de l'Ituri. Suivez leur entretien.
Moïse Aliéguéra, bonjour.
Bonjour, monsieur Ronelly Timonera.
En qualité de notable de la province de l'Ituri, que retenir de la situation socio-sécuritaire actuelle dans cette entité?
Malgré l'état des sièges institué depuis le 3 mai 2021, les violences des groupes armés se perpétuent contre les civils et cela provoque l'exode sans fin des populations déplacées des Njougou, du Rumu, des Maagi et des Mambasa, qui sont sans abri, ni eau potable, ni pain, ni soins médicaux. À ce stade, c'est la catastrophe dans la province de l'Ituri.
Combien de personnes seraient affectées par ces violences des dernières années?
Nous pouvons dénombrer, selon plusieurs rapports de OCHA, 2 700 000 personnes déplacées, regroupées dans plus de 70 sites de déplacés en Ituri. Je dois vous avouer que les conditions sont cruelles, inhumaines et déshumanisantes. Les gouvernements doivent agir dirigeamment pour sauver ces personnes et surtout des enfants et de femmes enceintes qui se comptent par des centaines de milliers.
Changeons de chapitre pour parler de cette présence de l'armée ougandaise dans certaines localités de la province des l'Ituri. Cette présence renforcée de l'armée ougandaise intervient dans le but de traquer les groupes armés responsables de l'insécurité. Vous pensez que cette démarche peut vraiment résoudre la crise sécuritaire dans la région?
Cela peut être une des solutions à cette crise sécuritaire qui n'a que trop duré, mais le gouvernement de la République doit songer à construire une armée républicaine qui doit défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays, la RDC, sans trahison.
C'est-à-dire que vous remettez en cause les résultats de cette présence des forces UPDF sur les sols congolais?
Bon, je n'ai pas remis en cause, mais j'ai dit que ça peut être une des solutions. Parce que ce n'est pas une mutualisation qui doit continuer ou bien qui doit jouer le même rôle que nos forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Cela couvre uniquement la province d'Ituri. Et donc, dans d'autres provinces, nos forces de défense et de sécurité assurent mission régalienne. Et pour que cela soit fait de manière responsable, de manière efficace, nous devons avoir une armée républicaine composée de fils et filles du pays qui ne vont pas trahir notre pays. Parce que vous savez, aujourd'hui, si nous avons la nation rwandaise, c'est parce que il y a des Congolais, des Congolaises qui ont décidé de trahir notre pays, et notamment Corneille Nangaa qui a trahi le pays avec toute sa bande.
À ce stade, que devrait faire le gouvernement congolais pour mettre un terme à la crise actuelle dans la province de l'Ituri?
Bon, le gouvernement doit d'abord maintenir la pression militaire contre tous les groupes armés actifs dans la province de l'Ituri. Deuxièmement, les gouvernements doivent activer les programmes de désarmement et de démobilisation PDDR-CS qui malheureusement peine à bien fonctionner depuis son institution par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faudrait y mettre de gros moyens pour que ce programme soit opérationnel parce que après la pression militaire, c'est sûr que les groupes armés se sentiront coincés. Et ceux-là qui voudront bien rendre l'arme, ils vont venir au centre du pré-cantonnement, déposer les armes et entamer le processus de démobilisation et de réinsertion communautaire. Troisièmement, le gouvernement doit actionner la justice. Nous avons plusieurs responsables de cette crise qui sont libres, dont certains hauts de fonction, au sein du Parlement, au sein du gouvernement, au sein des différents services publics de l'État. Cela doit s'arrêter. Ils ne doivent pas se sentir libres comme s'ils étaient de bons citoyens qui jouissaient de leurs droits alors que ce sont des criminels. Ils doivent être arrêtés, poursuivis. C'est une meilleure façon de redonner l'espoir à ces millions de vies qui sont désespérés aujourd'hui.
Pour terminer, deux groupes armés viennent de voir le jour en l'espace de 2 mois dans la province de l'Ituri, s'ajoutant ainsi à d'autres groupes déjà hyperactifs. Quelle analyse faites-vous de ces phénomènes?
Bon, écoutez, celles et ceux qui pensent que les groupes armés sont un moyen d'avoir le pouvoir au Congo, ce n'est pas un bon moyen. Ce ne sont pas les groupes armés qui doivent construire notre pays. Ce qui construira notre pays, c'est la prise de conscience, c'est le patriotisme, le nationalisme. Les travail, ce ne sont pas les groupes armés, donc qu'ils arrêtent de manipuler la jeunesse.
Moïse Aliguera, merci.
Merci beaucoup, Monsieur Timonera.
À vous, auditeurs de Radio Capi, nous disons aussi merci d'avoir suivi cette édition vespérale sur la fréquence de la paix.